Donc Jean-Louis a proposé à la lecture les textes du jour. Et on a chanté « Rien n'est impossible » à Dieu. Alors c'est une parole de Jésus, hein, ni plus ni moins, c'est lui qui le dit. Et donc, quand j'ai préparé ce que j'allais vous partager ce matin, je me suis dit « Je vais me lancer le défi de choisir un des textes qui était imposé à la lecture de ce dimanche ». Ça n'a pas été chose aisée. Alors j'ai pris le texte qui était proposé de Matthieu, le passage de ce jeune homme. Alors méfiez-vous parce que dans certaines Bibles, ils mettent un titre et ils disent « La rencontre avec le jeune homme riche ». Et en fait au début, on ne sait pas hein, qu'il est riche. Donc méfiez-vous juste, c'était juste une parenthèse, des titres qui sont donnés des fois au début des paragraphes parce que ça induit la lecture. Alors, c'est un texte qui est connu et le grand défi pour nous ce matin, ça va être d'en retirer quelque chose de nouveau. On va refaire la lecture parce qu'il y a une partie qui a été enlevée. On va reprendre vraiment du début pour comprendre ce qui se passe. Donc ce texte, il est dans les trois évangiles, ce récit. Ça montre quand même peut-être l'importance. Et il est question d'une rencontre.
Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit,
« Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. »
« Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit,
« Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. » Honore ton père et ta mère, et tu aimeras le prochain comme toi-même.
Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit,
si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi.
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples,
« Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit,
« Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. »
Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit,
« Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis. » Sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Alors, on va surtout voir ce matin peut-être ce que le texte ne dit pas à première lecture. Donc voilà l'histoire d'une rencontre. Jésus est en chemin, il a quitté la Galilée, il est en route vers Jérusalem. Et le moment où il va être crucifié, il n'est pas si loin que ça. Probablement la foule le suit, il marche. Et sa rencontre avec le jeune homme, elle se situe pas, on n'a pas de précision en tous les cas du cadre. Ce récit, il est coincé entre juste avant le passage où il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » et juste après la parabole des ouvriers de la dernière heure. À ce moment précis, Jésus, il a déjà enseigné, il a déjà guéri, les gens ont vu et ont entendu ce qu'il avait à dire. Et l'occasion ici, pour lui, elle est sûrement d'aborder la question de ce que signifie suivre Jésus. Et aussi la question de ce qu'est le royaume de Dieu. Alors cette question de ce jeune homme, elle va lui permettre d'enseigner à la fois le jeune homme, mais aussi ses disciples. Vous avez vu, il y a vraiment les deux parties. Donc le jeune homme arrive, et moi je le trouve courageux. Parce qu'il y a la foule qui le regarde, et il pose une question. Au début, ce jeune homme, il est anonyme, on ne sait rien de lui. Mais je pense qu'il est sincère quand il aborde Jésus. Il l'appelle maître, respectueusement, ça veut dire qu'il lui reconnaît son statut d'enseignant. Et il pose la question, qui est légitime et qu'on se pose peut-être tous à un moment donné. Comment se faire accepter de Dieu ? Question classique, qui prend un ton personnel, dans laquelle je peux me reconnaître moi aussi. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors cette question, un maître de la loi l'avait déjà posée en Luc, mais pour piéger Jésus. Il lui avait dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle ? La question du jeune homme, elle révèle sûrement son ignorance, finalement, sur qui est véritablement Jésus. Alors le point de vue du jeune homme, c'est sûrement que pour lui, la vie éternelle, c'est un privilège à gagner plutôt qu'un don à recevoir. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il va détourner l'attention du jeune homme, qui est centré sur lui-même, et il va la tourner vers Dieu. Il va recadrer le jeune homme. Et il lui dit, un seul est bon, Dieu lui-même. Jésus, il est en train de lui dire que Dieu, dans sa bonté, il lui a donné des commandements. Et puis, il reprend les bases. Alors ça, j'aime bien. Jésus reprend le jeune homme là où il est. Il lui relie, il lui redonne les commandements. Il n'est pas en train de lui dire ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il veut le convaincre que la loi, elle est là comme elle agit comme un révélateur de ses intentions et de la pureté du cœur qui... Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du jeune homme ? Alors, le jeune homme, il pose la question, lesquels des commandements ? Parce qu'il les connaît. Sûrement qu'il est très instruit. Lesquels ? Alors, peut-être qu'il sous-entend qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Peut-être qu'on le fait aussi, ça, nous. Consciemment ou non, est-ce qu'on opère ce genre de classement ? Le jeune homme, il pose la question de ce qu'il faut faire. Il vient en plein jour, il questionne Jésus, il veut faire le tri dans sa tête, le tri dans sa vie. Mais son questionnement, il relève sûrement plus de la connaissance théorique et pas de ce qu'il vit réellement. Alors, Jésus, il lui fait prendre conscience au jeune homme qu'il a la connaissance. Et il énumère 5 commandements. Et les 5 commandements qu'il énumère, c'est juste les commandements. Ce sont les principaux qui sont en lien avec la relation avec les autres. Et il termine par le dernier, il lui dit, tu aimeras le prochain comme toi-même. Alors le jeune homme, il dit, mais tout ça, moi je l'ai appliqué, ça veut dire que je l'ai observé, je l'ai gardé. Alors on pourrait peut-être croire qu'il est prétentieux à ce moment-là, parce qu'il est en train de dire, mais moi j'ai fait ce que tu m'as demandé. Mais en fait, je pense que le jeune homme, sa conception des choses, ce qu'il est en train de dire, oui, j'ai appliqué les commandements, elle est cohérente avec ce que lui, il croit. Ben oui, il n'a pas commis d'adultère, il n'a pas volé, il est en règle, enfin, en tous les cas, il pense l'être. Et puis, alors à ce moment précis, Jésus il va le questionner sur son manque. Il part de ce qu'il a, de ce que le jeune homme, il a, pour mettre en lumière ce qui lui manque. Et le jeune homme, il va poser la question, il dit, « Mais que me manque-t-il encore ?» Alors, dans l'évangile de Marc, ce récit, il y a une précision à ce moment-là. À ce moment-là, dans l'évangile de Marc, il est dit, « Jésus le regarda et se mit à l'aimer. » Au moment où le jeune homme, il dit, « Que me manque-t-il encore ?» Jésus le regarde et se mit à l'aimer. C'est-à-dire que Jésus, il ne le juge pas, il apprécie la sincérité du jeune homme et sa soif de comprendre. Et certainement qu'il apprécie aussi quand on va vers lui, nous, sincèrement, en lui posant des questions et en se mettant à nu. Suivre Jésus, ça ne constitue pas un supplément d'être, quelque chose d'un petit plus dans une vie déjà bien remplie. Non, Jésus, il est en train de dire au jeune homme, je vais t'emmener un peu plus loin, alors suis-moi. Et il lui fait prendre conscience de manière absolument magistrale qu'il ne peut pas se sauver lui-même. C'est-à-dire qu'à la question « qu'est-ce que je dois faire ?», Jésus est en train de dire « mais viens, moi je vais te montrer qu'il n'y a que Dieu qui peut te sauver ». Et alors comment il fait ? Il lance un appel au jeune homme, il lui dit, il est en train de lui montrer qu'il n'est pas capable finalement de respecter ce commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il lui lance un défi. Il le met au défi de prouver son amour envers son prochain. Et les vers qui suivent, c'est dommage qu'on n'a plus de texte, il lui dit « va, vends, donne, viens, suis-moi ». Va, vends, donne, viens, suis-moi. Il est en train de démonter les convictions du jeune homme. Les verbes que choisit Jésus, ils impliquent un mouvement, un engagement, un désir, une volonté de changer. Jésus, il est en train de le questionner sur ce qu'est être disciple et sur ce qu'est suivre Jésus. Il est question de renoncement, vend, donne. Il est question de mouvement, viens, suis-moi. Alors ici, c'est facile de taper sur les doigts du jeune homme, hein. Il a beaucoup d'argent, donc la problématique là, c'est par rapport à l'argent, mais je pense qu'en fait, on peut aller plus loin. Jésus, il est juste en train de lui montrer où le jeune homme a mis son trop-plein de confiance. Dans cette situation précise, c'est l'argent, mais le renoncement demandé par Dieu, il peut être de toute autre nature, à mon avis, selon la situation dans laquelle on se trouve. Vends. Fais un inventaire de tout ce dont tu es dépendant. Prends conscience que ce n'est pas à toi et que tu n'en es que le gérant. Voilà ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit « viens », ça veut dire qu'il n'y a que lui qui peut se bouger. Sa démarche, elle est personnelle. Tu ne peux pas le faire à la place de ton voisin. Le « viens » de Jésus, il implique une démarche, il implique avancer, il implique un mouvement. Et il implique du changement. Le changement, c'est le propre de la foi. Jésus, il n'est pas en train de lui dire d'attendre que ça se passe et puis tout va bien. Non, il est en train de lui demander de se lever. Il voulait faire prendre conscience au jeune homme qu'il est incapable de donner tous ses biens. Donc, incapable d'obéir au commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, incapable d'obtenir la vie éternelle par ses propres efforts. À sa dépendance à l'argent, Jésus propose, il ne propose pas la dépendance à Dieu. Ce n'est pas ce qu'il est en train de lui dire. Il propose la communion, à mon avis, avec Dieu. Il lui propose de rentrer en relation avec Dieu. Et la vraie liberté, elle est dans cette communion-là. Et la réaction du jeune homme, après avoir entendu cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme, il avait sûrement beaucoup à perdre. Il avait sûrement une grande dépendance. Et ce qui est étonnant, c'est que dans d'autres rencontres, par exemple la femme à la perte de sang ou l'aveugle né, on voit des personnes qui se tournent vers Jésus parce qu'elles n'ont rien à perdre et tout à gagner. Et là, on a ce jeune homme qui a tout à perdre. Alors Jésus, il le regarde partir et il conclut avec un proverbe qui était fort connu dans ce temps-là. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Là, il est juste en train d'énoncer une évidence, quelque chose qu'il reconstate à nouveau. Il veut juste pointer l'impossibilité pour tout homme de se sauver lui-même. Et peut-être plus en annexe pour les riches à cause de l'attachement au bien. En disant cela, c'est juste un constat, il ne juge pas Jésus, hein. Il vit forcément aussi à une époque où c'est plutôt les riches qui oppressent les pauvres et pas l'inverse. Alors, « suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel », le jeune homme répond « je pars et je garde mes biens ». Et je me suis dit, mais finalement, cette scène, elle illustre aussi la grande liberté que nous donne Dieu dans nos choix. La liberté de le suivre ou non. Le jeune homme a été libre de choisir de ne pas suivre Jésus. Et à ce moment-là, il y a une deuxième scène qui arrive. Les disciples entrent en scène et eux, ils sont flippés. Hein, vraiment, ils sont angoissés, ils sont stressés. Ils se disent « mince !» Et nous alors, serons-nous sauvés ? Quelle récompense on va avoir ? Et puis si le salut c'est tellement difficile, ben, et nous alors, est-ce qu'on y aura part ? Évidemment, ils sont angoissés parce qu'ils ont assisté à la scène. Et je pense que leur question, elle est légitime. Et là, on le voit bien quand on creuse le texte, le ton y change. Par rapport à la façon dont il s'est exprimé au jeune homme, Jésus, là, il va prononcer un discours rassurant. Et il va aborder une question fondamentale pour les disciples, qui est la question du royaume. C'est seulement à ce moment-là qu'il va parler de la position future des juges offerte au cercle restreint des disciples. Le but de Jésus à ce moment-là avec ses disciples n'est sûrement pas de leur faire peur, mais il y a urgence en fait de les enseigner, puisque là on est en marche vers Jérusalem, il ne reste plus que quelques temps. Donc Jésus il profite à chaque fois de ce temps pour enseigner aussi ses disciples, puisqu'il va leur laisser ensuite la main. Il reprend avec ses disciples le thème du renoncement. Alors, il ne le reprend pas sur le thème de l'argent, mais on a la même chose en fait. Il a un nouvel angle d'attaque. Les disciples, eux, ils font partie de la famille de Dieu, ils ont choisi de suivre Jésus. Et Jésus, quand on lit le texte, il n'est pas en train de dire qu'il faut quitter père, mère, enfant, etc. Il souligne juste là la nécessité du choix lorsqu'il y a un conflit ou lorsque ces réalités s'opposent à l'intégrité. À nouveau, il repose la question du choix à ses disciples comme il l'a posé au jeune homme riche par rapport à l'argent. Et nous, on a tout quitté, qu'est-ce qu'il en sera de nous ? La question de la vie éternelle, du salut, elle est fondamentale. Et Jésus l'aborde ici de manière très pédagogue. Et ce récit, il illustre encore une fois la difficulté qu'ont les disciples et que nous, on a aussi parfois de comprendre l'enseignement de Jésus sur le royaume. Ce texte, moi, il nous rappelle qu'on a un besoin fondamental d'être éclairé. Et comment on est éclairé ? Ben, comme le jeune homme y fait, comme le disciple y fait, on pose des questions. Alors, on pose des questions dans nos temps de prière personnelle. On pose des questions en lisant la parole, en essayant de la comprendre. Et on a la promesse que le Saint-Esprit nous éclaire en lisant la parole et nous éclaire dans nos temps de prière. Ce texte, il dit aussi qu'une grande connaissance, elle ne suffit pas. Le jeune homme, il connaissait la loi, il connaissait probablement un certain nombre de choses et de textes, mais ça ne suffit pas. Il faut questionner. Jésus, il dit autre chose dans ce texte. Il dit aussi qu'il parle de communion. Il dit qu'il nous demande de suivre, de se lever, de questionner, de faire des choix. Et ces choix, ils sont parfois difficiles. Dans cette rencontre avec le jeune homme, Jésus, il lance un appel à la foi et il lance un appel à la vocation de disciple. Et il lance un appel aussi à ses exigences. On n'aime pas trop ce mot, mais en fait, suivre Jésus, ça implique un certain nombre d'exigences. Parce que la bonne nouvelle, elle va à l'encontre de notre volonté d'autonomie, de notre volonté d'autosuffisance, de notre volonté de se suffire à soi-même, de notre volonté de tout maîtriser. C'est pour ça aussi qu'il y a un conflit entre ce que veut le jeune homme et ce qu'il fait réellement. Ce texte, il ne dit pas qu'il vaut mieux être pauvre, il ne dit pas non plus qu'il faut tout quitter pour suivre Jésus. Ce texte, il parle de démarche, à mon avis, de démarche personnelle, et du miracle de la rencontre avec Dieu pour qui rien n'est impossible. Ce texte, il parle aussi de la liberté qu'on a chacun, qui nous est donnée, de suivre ou non le Christ. Cette liberté, on ne l'impose pas. Ce texte, il parle aussi de la grâce de Dieu qui n'obéit pas à la loi du marché, qui n'obéit pas à la loi du mérite. Ce texte, il parle aussi de l'amour de Dieu pour ses enfants et d'un héritage qui nous est promis. Et il parle, à mon avis aussi, d'un programme révolutionnaire, un programme de vie qui est développé dans les Béatitudes, donc au chapitre 5 de Matthieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Suivre ce programme révolutionnaire, c'est forcément se mettre en marche et en accepter les exigences. Et c'est accepter aussi probablement un reformatage par rapport à ce que la société et nous-mêmes, on a dans nos têtes. Un reformatage et un renversement des valeurs de notre société. Et Jésus, il conclut comme ça, les premiers seront les derniers. Alors, probablement qu'il généralise ainsi sa pensée, parce qu'on peut être les premiers selon les valeurs humaines, et les derniers selon les valeurs du royaume, et inversement. Alors, c'est à nous et à nous seuls, comme le jeune homme, de commencer la démarche, de questionner et de nous laisser transformer. Questionner Dieu en toute simplicité. Questionner sa parole et le questionner dans nos prières afin qu'il nous éclaire, comme il l'a fait avec le jeune homme, comme il l'a fait avec ses disciples, en sachant qu'il nous laissera libres de répondre ou non à son appel. Amen. Yeah.